Votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons du Sénégal où depuis mardi, la colère ne retombe pas dans les universités après la mort d'un étudiant tué par les forces de l'ordre lors d'une manifestation pour dénoncer les retards dans le versement des bourses. Le versement des bourses, principale cause de la violence dans les universités. C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs ONG, dont la Ligue sénégalaise des droits humains. En tout cas, le problème des bourses est récurrent sur le continent africain. Si vous nous écoutez au Gabon, au Niger, au Congo, en Mauritanie, vous êtes probablement étudiant et vous savez que les bourses ne sont plus versées en temps et en heure. Les étudiants sur place dénoncent également ces arriérés. Alors pourquoi ces retards systématiques dans le versement des bourses? Quelles en sont finalement les conséquences dans la vie quotidienne des étudiants? Vous nous appelez, vous êtes déjà plusieurs dizaines à poster vos commentaires et vos témoignages sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. J'en lirai quelques-uns tout à l'heure. Plusieurs d'entre vous nous ont envoyé des coordonnées, donc nous vous rappellerons bien évidemment pour que vous puissiez vous exprimer en direct sur l'antenne d'RFI. Le débat du jour, ce sera donc dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction de RFI, vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Florent nous a contacté de Yaoundé, au Cameroun. Bonjour Florent.
Bonjour Juan, bonjour RFI et bienvenue à Yaoundé.
Et bienvenue sur les antennes de RFI. Vous avez des questions sur les violences de ces derniers jours dans la bande de Gaza?
Oui, les États-Unis et Israël ont rejeté totalement la responsabilité sur le Hamas alors que le Fatah, la gauche et la société civile palestinienne participaient eux aussi aux manifestations. Sur ça, j'aimerais savoir pourquoi on ne critique que le Hamas.
Ouais, c'est vrai que pour le gouvernement israélien et pour la Maison Blanche, il n'y a qu'un seul responsable des violences meurtrières dans la bande de Gaza. Il s'agit du Hamas, le mouvement islamiste. Bonjour Guilhem Delteil.
Bonjour Juan, bonjour Florent.
Correspondant permanent de RFI à Jérusalem. Alors il faut dire, Guilhem, qu'Israël tient systématiquement le Hamas pour responsable de ce qui se passe dans la bande de Gaza.
Oui, en effet, le Hamas, ce mouvement islamique, a pris le pouvoir dans la bande de Gaza en juin 2007 et depuis, Israël considère qu'il est responsable de tout ce qui se passe dans ce territoire, dans cette enclave. Ce fut le cas encore, par exemple, hier et cette nuit. Il y a eu hier dans l'après-midi des tirs à la mitraillette lourde depuis la bande de Gaza sur une ville israélienne, une maison israélienne qui a été endommagée par ces tirs. Ces tirs ont été revendiqués par les brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Il s'agit d'une branche armée du Fatah, le mouvement de Mahmoud Abbas, mais l'armée israélienne a bombardé plusieurs positions militaires du Hamas en réponse à ces tirs, estimant que le Hamas est donc responsable de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et c'est vrai que le Hamas est au pouvoir à Gaza, qu'il contrôle ce territoire et qu'un mouvement comme cette marche de protestation ne peut se faire sans approbation du mouvement islamiste et sans son soutien non plus, son soutien financier, son soutien logistique. Le Hamas a mis à disposition notamment des bus pour les manifestants, pour les acheminer vers les points de rassemblement le long de la barrière de séparation. Le Hamas a contribué aussi à l'installation de tentes pour accueillir les manifestants sur ces points de rassemblement. Il y a donc une participation réelle, forte du Hamas, mais ce mouvement est organisé par, vous le disiez, la société civile, des organisations, mais aussi toutes les factions politiques, la gauche, le Fatah, qui sont donc au sein de ce comité national d'organisation de la Grande Marche du Retour.
En tout cas, en accusant le Hamas, les États-Unis et Israël cherchent aussi à discréditer le mouvement.
Oui, c'est effectivement une guerre de communication que se livrent aussi les deux parties. D'un côté, les organisateurs de la marche affirment que leur mouvement est pacifique, entièrement pacifique. C'est vrai que la très grande majorité des manifestants n'est pas armée. Certains ont certes des lance-pierres et puis au fil des semaines, face à la répression israélienne, ils se sont mis à brûler des pneus, manier des cerfs-volants, auxquels ils attachent désormais des engins incendiaires et ces stratégies en fait ont déclenché des feux dans les champs côté israélien de la barrière. Il y a eu aussi quelques tentatives d'intrusion sur le territoire israélien. L'armée israélienne affirme que des militants palestiniens ont tenté de déposer des engins explosifs près de la barrière, des engins qui auraient pu viser des soldats israéliens, mais l'essentiel des dizaines de milliers de manifestants ne semble pas représenter de danger imminent pour les forces israéliennes. Et avec plus de 100 morts depuis le 30 mars, depuis le début de cette marche désormais, eh bien les forces israéliennes se retrouvent accusées d'un usage disproportionné de la force sur des civils qui manifestaient. Alors les autorités israéliennes dénoncent, elles, des émeutes violentes. Elles disent protéger leurs frontières et la sécurité de leurs citoyens. Elles disent avoir identifié, par exemple, parmi les 60 victimes de lundi, 24 membres des forces de groupes armés du Hamas essentiellement, ou également de groupes armés dépendants du djihad islamique. Mais Israël, il est vrai, est sur la défensive. Le pays sait que son image souffre des événements actuels. Or, le Hamas est un mouvement considéré comme terroriste par beaucoup de pays et d'organisations internationales. C'est le cas des États-Unis notamment, de l'Union européenne aussi, ou de l'ONU encore. Alors, lui imputer à lui seul la responsabilité de ce mouvement, eh bien c'est aussi une façon d'essayer de s'attirer un soutien international, ou en tout cas d'atténuer les critiques qui visent l'armée israélienne aujourd'hui.
Reste avec nous encore quelques instants, Guilhem Deltey. Florent a une deuxième question à vous poser. Florent ?
Oui, pour les Américains, le plan de paix est quasiment achevé. Quel est le contenu de ce plan ?
Alors, le plan de paix élaboré par Donald Trump, pour l'instant, on ignore la teneur de ce plan que le président américain souhaite proposer dans les prochaines semaines. A-t-on tout de même, dispose-t-on tout de même, Guilhem Deltey, de fuite ou pas du tout ?
À vrai dire, on n'en a pas vraiment, non, des fuites. Enfin, il y en a eu dans la presse, mais des informations qui ont été confirmées, recoupées, ça, il n'y en a pas. Elles sont régulièrement démenties. Enfin, les articles de presse qui paraissent sur le sujet sont régulièrement démentis après. Alors, cela fait des mois que l'administration américaine affirme que son plan est quasiment achevé. Ses émissaires sont venus à plusieurs reprises dans la région. Il y a eu Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, mais surtout Jason Greenblatt, qui a multiplié les visites. Jason Greenblatt, c'est l'envoyé spécial des États-Unis pour le Proche-Orient. Et depuis la prise de fonction de Donald Trump, il y a 16 mois, il est vraiment venu plusieurs fois, mais ce plan, ben, il se fait toujours attendre et il est très difficile d'avoir des échos fiables, véritablement fiables, de ce qu'il pourrait contenir.
Merci d'avoir été avec nous, Guilhem Deltey, en direct de Jérusalem. Florent, bonne journée à Yaoundé au Cameroun. Il est 10h18 à Paris. Ce sont vos questions. Vous nous appelez. N'attendez pas, évidemment, le début de l'émission pour nous contacter. Vous pouvez le faire tout au long de la journée. Le standard reste ouvert. D'ailleurs, nous avons besoin de connaître forcément vos questions avant de commencer l'émission pour contacter nos experts ici au sein de la rédaction, ou nos envoyés spéciaux, ou encore nos correspondants, comme c'était le cas il y a quelques instants, avec Guilhem Deltey à Jérusalem. Autre question qui nous vient de Dubaï. Bonjour Gabriel.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Merci beaucoup. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Madame Louise Mushikiwabo, est fortement pressentie pour présenter sa candidature à l'Organisation internationale de la francophonie en octobre prochain face à Michael Jean. Sur ce, j'ai des petites questions. Comment expliquer cette candidature alors que les Rwandais avaient tourné les dos à la francophonie en faveur de l'anglais depuis 2009 ?
Effectivement, c'est une bonne question. On va déjà répondre, si vous le permettez, à cette première question avec Anne Cantonner du service Afrique de RFI. Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors c'est vrai que Louise Mushikiwabo est fortement pressentie pour présenter sa candidature en octobre prochain face à Michael Jean. Pour l'instant, rien n'est encore officiel, mais on voit bien à quelques mois du prochain sommet de la francophonie que l'objectif des pays africains est d'avoir un ou une seule candidate.
Oui, ça c'est vraiment la priorité, parce que traditionnellement, la tête de l'OIF revient à un Africain. Ça n'est pas ce qui s'était passé la dernière fois. Lors du dernier sommet, les pays africains n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. 4 candidats venaient du continent et le vainqueur avait finalement été le 5e candidat, Michael Jean, la Canadienne. Donc cette fois, le mot d'ordre, c'est l'unité. Les pays africains discutent depuis des mois déjà. Et d'ailleurs, les négociations se poursuivent encore pour qu'il n'y ait qu'une seule tête au prochain sommet.
Alors la question de Gabriel est pertinente. C'est vrai que cette candidature de Louise Mushikiwabo peut surprendre quand on sait que la France et le Rwanda entretiennent des relations chaotiques depuis maintenant 24 ans. Gabriel l'a dit tout à l'heure, le Rwanda a même tourné le dos à la francophonie.
C'est vrai que le président Kagame a beaucoup mis en avant l'anglais, il en a fait une langue officielle en 2003. Depuis 10 ans, les cours ne sont plus dispensés en français dans les écoles, mais en anglais, toujours à l'initiative du chef de l'État. Mais le français est quand même toujours resté une langue officielle. D'ailleurs, le Rwanda n'est pas le seul pays ayant plusieurs langues officielles à faire partie de la francophonie. Parmi les États membres, on trouve par exemple le Cameroun, la Belgique, le Canada. Et il y a même des cas beaucoup plus surprenants, des pays membres qu'on n'attendrait pas forcément, comme le Qatar ou la Corée du Sud. En fait, c'est écrit sur le site de l'OIF, l'organisation rassemble des hommes et des femmes qui en partagent le français et les valeurs universelles. C'est comme ça que c'est écrit.
Ouais. Gabriel, vous avez une seconde question.
Oui, j'ai une seconde question, Juan. Pourquoi ce scénario est-il soutenu par l'Élysée ?
Alors, l'Élysée, visiblement, soutiendrait la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères.
Oui, il semblerait. Alors, encore une fois, là, rien n'est officiel. Il semblerait que l'Élysée le soutienne. On peut imaginer plusieurs pistes. D'abord parce que les relations entre le président français et l'actuel secrétaire général de la francophonie ne sont pas particulièrement bonnes. Sans rentrer dans les détails, un diplomate français explique « Michael Jean est très lyrique. Emmanuel Macron aime les choses carrées ». D'ailleurs, le président français n'est pas le seul à avoir une opinion mitigé, disons. D'après une source bien informée, Michael Jean et son bilan sont assez critiqués, et notamment en Afrique. Pour la France, il y a aussi peut-être des raisons diplomatiques. Après 25 ans de relations extrêmement tendues, la France a fait des gestes vers le Rwanda récemment. Les deux présidents se sont rencontrés en septembre dernier à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Paul Kagame est attendu dans quelques jours à Paris.
Et ils se sont vus même récemment, c'était en septembre effectivement à New York, et aussi en mars à New Delhi, en marge du sommet fondateur de l'Alliance solaire internationale. Ça veut dire qu'ils se sont déjà rencontrés à deux reprises en l'espace d'un an, puisque ça fait un an qu'Emmanuel Macron est président de la République.
Plus une visite de la ministre française des Sports, on voit qu'il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs gestes. Donc même si les questions qui fâchent restent encore nombreuses entre la France et le Rwanda, clairement la tendance est plutôt à l'apaisement et au rapprochement entre les deux pays. Donc il faut quand même rappeler que donc officiellement l'Élysée ne soutient pas la candidature de Louise Mushikiwabo. D'ailleurs la candidature elle-même n'est pas encore officielle. Mais un diplomate français de haut niveau confirme à demi-mot que si la ministre rwandaise était candidate, eh bien elle aurait l'appui de Paris. Ce même diplomate a répondu à la question que se posait Gabriel justement sur le choix du Rwanda. Il explique que pour Emmanuel Macron, il ne faut pas opposer les langues. Il ajoute que le président français a souvent défendu le multilinguisme. Alors tous ces indices du diplomate précisent qu'Emmanuel Macron est plutôt derrière Louise Mushikiwabo. Donc a priori, elle aurait le soutien de la France. Et ça n'est pas rien, parce que même si évidemment rien de tout cela n'est officiel, généralement, quand Paris soutient un candidat, eh bien c'est lui qui gagne.
Donc le soutien de la France et visiblement également le soutien de l'ensemble des pays africains.
Oui, en tout cas, c'est ce qui est en train de se mettre en place.
Le profil de cette candidate semble plaire, séduire.
C'est ce qui est en train de se mettre en place. Alors, il semblerait que cette candidature, ce soit pas une initiative du Rwanda. Visiblement, ça a été suggéré. Alors, par qui? On ne sait pas exactement pour l'instant. En tout cas, il y a plusieurs pays africains qui sont en train de militer pour que Louise Mushikiwabo soit candidate en octobre au prochain sommet. Le Sénégal, par exemple, la Côte d'Ivoire et le Gabon font partie des principaux partisans d'une candidature rwandaise à l'OIF.
Gabriel, a-t-on répondu à vos questions ?
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Bonne journée.
Et bonne journée à vous à Dubaï, où vous nous écoutez sur internet rfi.fr. À bientôt, Anne Cantenaire. On
bonne
repasse
journée.
Au standard au 33 9 693 693 70. On va parler football. On va pas parler de la défaite hier soir de l'Olympique de Marseille, mais on va parler du Paris Saint-Germain. Éric Chorin du service des sports est à mes côtés. Bonjour Éric.
Bonjour Juan.
Et on accueille avec plaisir Abdoulaye qui est à Conakry en Guinée. Bonjour à vous.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Nous vous écoutons.
Juan, Thomas Tuchel est officiellement l'entraîneur du Paris Saint-Germain remplaçant Unai Emery.
Oui.
Tuchel n'a jamais dépassé les quarts de finale d'une Coupe d'Europe. Comment comptes-tu lui prendre avec le Paris Saint-Germain ?
Alors, c'est une bonne question, Éric Chorin. C'est vrai que c'est un choix pour le moins étonnant. On s'attendait à un entraîneur star pour succéder à Unai Emery. On s'attendait à un entraîneur qui collectionne les trophées. Et visiblement, avec l'Allemand, ce n'est pas le cas.
Non, c'est pas le cas. Et si vous me demandez, comme Abdoulaye l'a dit, comment il va faire, je vais tout de suite vous répondre que j'en sais strictement rien. Lui-même, peut-être ne le sait pas. Enfin, non, c'est plutôt le contraire. C'est sûr, il a pas gagné grand-chose à la Mitoma, une Coupe d'Allemagne avec Dortmund il y a un an. Et Abdoulaye a raison. Tourelle n'a jamais franchi les quarts de finale d'une Coupe d'Europe. D'un autre côté, depuis ses débuts d'entraîneur avec des pros, c'était hier, hein, en 2009. Il n'en a pas eu beaucoup l'occasion, mais il a quand même emmené Mayence en Ligue Europa deux fois sans jamais dépasser la phase de poule. C'est vrai, mais pour un
promu, c'était déjà énorme. Et ensuite, lors de ses deux saisons à la tête du Borussia, il est quand même allé jusqu'en quart en Ligue Europa en 2016, où l'aventure s'arrête face à Liverpool après un match de folie perdu 4-3. Et en Ligue des Champions l'an passé, butant face au Monaco de Kylian Mbappé en quart, dans un contexte particulièrement difficile. On s'en souvient, le bus de Dortmund ayant été la cible d'un attentat avant le match. Auparavant, le Borussia avait tenu tête au futur champion, le Real, deux partout à chaque fois en poule, et l'ami Tourelle avait déjà eu le temps de démontrer sa capacité à faire gagner ses équipes face aux plus grands, en surprenant le Bayern Munich dès sa première saison avec Mayence. Il le refera ensuite, Louis van Gaal et Joep Heynckes. Les entraîneurs du Bayern alors s'en souviennent encore, car c'est ça la force, Juan, de ce jeune entraîneur de 44 ans. Il a une vision du jeu, une vision très proche de celui prôné par Guardiola.
Ah, Guardiola, c'est son modèle.
C'est son modèle, et on pense souvent à Klopp, l'allemand aussi, mais Guardiola encore plus. Il a pris le temps d'aller observer son jeu à Barcelone, puis au Bayern Munich, un jeu porté vers l'offensive avec de la vitesse et un pressing très haut sur l'adversaire, un jeu exigeant pour ses joueurs, mais qui peut faire basculer les grands matchs, quitte à changer de schéma tactique en cours de rencontre et gagner les grands matchs. Et c'est un peu ça qui manque à Paris ces dernières années, parce que tout gagner dans l'Hexagone, ses prédécesseurs l'ont fait, que ce soit Ancelotti, Blanc ou Emery, et ça n'a pas suffi aux dirigeants qatariens.
Voilà ce que compte faire probablement l'entraîneur pour essayer de d'aller le plus loin possible la saison prochaine avec le Paris Saint-Germain, au moins jusqu'aux demi-finales. Ce sera bien pour les Parisiens. Abdoulaye, vous avez une autre question?
Oui, Juan. L'entraîneur allemand n'a pas eu beaucoup à faire avec les grandes stars. Va-t-il parvenir à gérer des joueurs comme Cavani et Neymar?
Ah, Cavani et Neymar, c'est vrai. Comment va-t-il appréhender ce vestiaire qui est effectivement rempli de stars?
C'est sûr, l'effectif du PSG, c'est un peu caviar pour Thomas Tuchel, et c'est peut-être pour ça qu'il a choisi Paris après une année sabbatique, comme avant qu'il prenne Dortmund, après avoir entraîné Mayence où il s'était révélé. Il a choisi Paris alors que le Bayern, justement, ou Arsenal, excusez du peu, le voulait, mais il s'était déjà engagé avec Paris. Il a donc dit au Bayern que c'était trop tard, mais bon, il a quand même su tirer le meilleur. Déjà à Dortmund, des Mkhitaryan, Aubameyang, pas facile à gérer, le Gabonais, on le sait, ou Marco Reus, même si cela s'est plus mal passé avec Mats Hummels, le défenseur et capitaine allemand, qui a eu de mots avec lui.
Effectivement, il est réputé pour être un homme de caractère, on dit qu'il a une très forte personnalité, certains disent qu'il est autoritaire, voire même intransigeant. Donc c'est peut-être ça qui fera la différence dans les vestiaires.
Oui, exigeant, intransigeant, autoritaire, vous le disiez, mais c'est aussi et plutôt pour ça qu'il a été choisi par un club où il est urgent de remettre de l'ordre dans un vestiaire de stars, on le disait, dont Unai Emery n'a jamais eu le contrôle. Thomas Tuchel, en tout cas, n'a pas attendu la fin de la saison pour prendre ses marques et déjà travailler en interne en rencontrant les Parisiens. Il a commencé par celui qui est le directeur sportif du club, c'est normal, le Portugais Antero Henrique. C'est son supérieur, en quelque sorte, même s'il ne l'a pas choisi, puisque l'arrivée de Tuchel au PSG est le fait du prince, ou plutôt de l'émir.
De l'émir lui-même en personne.
Du Qatar en personne. On espère qu'il connaît le football. Il aurait aussi fait connaissance avec les cadres brésiliens du club, la star, Neymar, bien sûr, Dani Alves et Thiago Silva. D'autres vont suivre, et notamment ceux qui pourraient avoir des envies d'ailleurs. Cet été, il y a le français, notamment le français Adrien Rabiot, et on peut imaginer qu'il pourrait relancer certains joueurs en de temps de jeu à Paris, comme son compatriote Julian Draxler, qui est un petit peu barré devant, évidemment, par le trident d'attaque. En résumé, Tuchel, Juan, c'est un pari, c'est sûr, mais un pari qui pourrait s'avérer gagnant pour Paris, qui a l'air enfin décidé à confier les clés de son beau camion à l'entraîneur. Toutes les clés, on verra, et le temps de les utiliser, on verra aussi. Pour l'instant, son contrat est 2 ans, plus une en option, mais on imagine que les dirigeants qatariens vont vouloir aller très vite dans le dernier carré de la Ligue des champion, comme vous l'annonciez, et ça c'est peut-être pas la première barrière qu'il faut lui mettre, ou le premier objectif qu'il faut lui mettre pour qu'il puisse travailler sereinement.
Abdoulaye, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, Juan, merci à vous.
Vous êtes vous-même supporter du Paris Saint-Germain ou pas du tout?
100%.
Alors le choix de Tuchel, il vous laisse circonspect ou pas?
Bon, on va essayer, parce qu'on a vu les entraîneurs, on a essayé un entraîneur français, espagnol, italien, on va essayer aussi un entraîneur allemand, voir la suite.
Bah oui.
Il apprend le français en plus.
Il est en train d'apprendre le français, effectivement, langue qu'il maîtrise déjà assez correctement.
Il paraît. Bon,
Nous verrons cela. On aura plaisir à l'entendre sur les antennes de RFI. Merci beaucoup Eric Chorin du service des sports. Bonne journée à vous Abdoulaye à Conakry. On marque une pause, on retrouve la rédaction pour le dernier point complet sur l'actualité africaine de cette matinée. Et on revient dans 10 minutes, on parlera du retard dans le versement des bourses dans les universités africaines.